Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Les informations avec Jacques-Yves Moulima.
L'insécurité ne s'estompe pas dans le Kwilu. Le village Mayala, qui est fait frontière avec la commune urbano-rurale de Maluku, a été attaqué. Bilan 7 morts et des maisons incendiées. Information livrée par l'administrateur du territoire de Bagata. Une usine de production de l'oxygène médical désormais disponible dans le sud Kivu. Œuvre de l'ONG de l'oxygène médical, son inauguration a eu lieu hier jeudi à Mudaka, dans le territoire de Kabare. Enfin, notre invité dans cette édition, c'est Damien Touambi Langane. Il est coordonnateur du pôle Le Grand Cassé de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en CR. Il nous parlera des sites identifiés et les plans locaux d'électrification finalisés dans l'espace Kassai. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Encore un autre village attaqué dans les territoires de Bagata, province du Kwilu. Il s'agit du village Mayala, situé en face de la commune urbano-rurale de Maluku à Kinshasa. Le bilan fait état de 7 morts et des maisons incendiées, selon l'administrateur de ces territoires, Joseph Mankoto, qui livre l'information, en appelle à la responsabilité des autorités concernées pour mettre fin à cette insécurité. D'autres détails avec Irène Bouma.
On continue toujours d'enregistrer des scènes de violence dans les territoires de Bagata au Kwilu. Cette fois-ci, c'est le village Mayala situé le long de la rivière Kwango dans le groupe Makisia, secteur de Wamba Fatundu, qui a été attaqué. Selon l'administrateur du territoire, Mayala est le 9e village de son entité à être attaqué par des assaillants depuis le début de ces atrocités à Bagata. Joseph Mankoto s'est dit préoccupé et déclare ce qui suit.
Le bilan, c'est 7 personnes, dont 6 hommes et une femme tués par les assaillants. Quand les assaillants viennent, ils incendient des maisons. Pour votre gouverne, le village Mayala, c'est notre village qui fait frontière avec la commune Ibanorila de Maluku, à Kinshasa. Ça saute aux yeux. Et vous savez qu'il y a encore des véhicules qui chargeaient dans Mayala. Alors, ils ont saisi aussi les biens pour aller sur la rivière Kwango, aller chercher les bannières pour récupérer les biens des gens qui voulaient voyager pour Kinshasa.
Notez qu'à l'heure actuelle, c'est la panique totale qui s'étend de Mayala vers les villages environnants où les populations ne savent plus à quel sens se vouer. Joseph Mankoto appelle les autorités compétentes à sécuriser les territoires de Bagata. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Pendant ce temps, Nord Kivu, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans la matinée de ce vendredi entre Kaunga et Mabenga. C'est environ 10 km au nord de la cité de Kiwanja. Plusieurs sources parlent d'une attaque des FRDC contre les positions des rebelles dans la zone. Pendant ce temps, dans la cité frontalière de Bunagana, certaines sources alertent sur un renforcement des troupes rebelles. Le point avec Noëlla Luzitukabambi.
C'est entre 7h et 10h locales que des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues ce vendredi sur l'axe Kaunga-Mabenga au nord de Kiwanja. Selon certains habitants contactés sur place, les cultivateurs qui campaient dans leurs champs dans la localité de Kaunga sont rentrés dans la cité de Kiwanja, d'où une psychose a été constatée dans cette entité où les troupes rebelles étaient déjà en alerte depuis plus de 3 jours. Pendant ce temps, dans la cité frontalière de Bunagana, certains habitants joints sur place continuent d'alerter sur l'arrivée en masse des hommes armés depuis plus de 3 jours en renfort aux unités rebelles du M23, ce qui, selon ses sources, constitue un autre sujet de préoccupation dans cette zone. Pendant ce temps, sur le front sud, des sources concordantes indiquent que les FRDC ont lancé entre 9h et 10h ce même vendredi des tirs d'artillerie lourdes sur les positions des rebelles du M23 entre la localité de Kabaya, dans le groupement de Kisigari et dans le groupement voisin des Rugari. Jusqu'à présent, aucun bilan de ces attaques n'est disponible.
Pendant ce temps, dans les territoires de Beni, la société civile du groupement Bouliki alerte sur des mouvements suspects des groupes armés identifiés aux ADF dans plusieurs agglomérations de cette entité. C'est depuis les attaques de Maboya, Kalaou et la récente de Kabacha. L'armée, pour sa part, dit prendre au sérieux ces menaces. Le porte-parole des opérations militaires Soukoula indique que les dispositions sécuritaires efficaces sont prises afin d'empêcher ces menaces qui sont aussi économiques. Le capitaine Anthony Mwalushai est au téléphone de Marc Marofimbo.
Rappelez-vous que la guerre que mènent les terroristes ADF-MTM dans la région des Béni, c'est aussi la guerre économique. Nous avons défait cet ennemi sur la route Béni-Kassindi, sur la route Mbaokamangu, Erengeti-Komanda, mais aujourd'hui l'ennemi intensifie ses actions sur la route Béni-Butembo. Cela veut dire que l'ennemi veut maintenant couper la transaction entre Béni et la ville de Butembo. Et nous avons déjà pris ça au sérieux. Nous avons déjà mis des dispositions sécuritaires efficaces pour contrer cet ennemi, ne pas déranger les commerçants ou les trafiquants qui utilisent cette route. Nous allons nettoyer cette route comme nous avons nettoyé plusieurs routes à vocation commerciale dans cette région pour donner non seulement la paix à notre population, mais permettre la transaction de marchandises sur toutes les routes de cette région.
Restons en Nord Kivu. Le programme alimentaire mondial PAM déplore le pillage des réserves de nourriture dans 6 écoles primaires de Rutshuru où cette organisation humanitaire organise des repas chauds en faveur des enfants vulnérables. Dans un communiqué daté du 10 novembre, le PAM confirme que des groupes armés ont ciblé ces écoles primaires et ont emporté par la force les stocks de nourriture. Les détails avec Sifa Maguru.
Cette agence spécialisée des Nations Unies déclare qu'elle ne peut en aucun cas fournir une aide alimentaire aux combattants de quelque nature que ce soit. Le PAM déplore ces pratiques et exhorte toutes les parties en conflit à se conformer à leurs obligations en vertu du droit international humanitaire, notamment à respecter les opérations humanitaires et à garantir un accès sûr et sans entrave aux personnes bénéficiaires. À l'instar des autres agences des Nations Unies, le PAM indique qu'il ne peut en aucune manière que ce soit prendre parti au conflit et rappelle que son travail est guidé par les principes humanitaires fondamentaux, notamment l'indépendance opérationnelle. Rappelons que plusieurs sources locales à Kiwanja ont alerté sur ces pillages jeudi matin dans les écoles au quartier Butorande. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Autre nouvelle, en Ituri, de nombreux déplacés qui avaient fui les actions des rebelles, des ADF, regagnent leur milieu d'origine dans la chefferie de Walese-Vonkutu sur le tronçon Komanda-Luna. C'est à la suite d'une accalmie observée dans cette entité coutumière où l'armée poursuit des opérations militaires contre cette force négative appuyée par des groupuscules Maï-Maï dans la région. Des sources locales précisent que ce mouvement retour s'observe dans au moins 32 villages dans les groupements Bakulu et Banda Vilemba avec comme résultat la relance des activités agricoles et économiques. Le point avec Ezekiel Mousalia.
Le coordonnateur de la société civile locale indique que ces retournés sont installés dans environ 14 villages dans le groupement Bakpoulou et 18 autres sur les 27 que compte le groupement Banda Vilemba. Il s'agit par exemple des villages de Bavessa, Pinzili 1, Pinzili 2, Ofai, Manzobe, Bandiakou et Bandikato dans le groupement Bakpoulou. Ces personnes avaient fui depuis plus de 5 mois les exactions des rebelles des ADF, notamment à Komanda, un centre situé à 75 km au sud de la ville de Bounia et dans la province voisine du Nord Kivu. Selon des sources concordantes, ces retournés ont repris les activités agricoles et même les petits commerces pour leur survie. La société civile locale attribue ces retours de la population aux conditions de vie difficiles dans leur milieu de refuge, mais aussi aux opérations militaires qui se déroulent dans la zone pour neutraliser les ADF. Dieudonné Malanga y son président.
Nous saluons cet acte-là. C'est pour cela, moi, j'ai dit qu'il faut une opération de grande envergure, surtout de nettoyage des zones, parce que pour que la population regagne à 100%, ils sont en train de s'aimer. Petit à petit, la vie commence à revenir dans cette partie.
Signalons que de nombreux déplacés sont également retournés dans leur village vers Boga et Tchabi, où les ADF sont toujours très actifs. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
La province du Sud-Kivu dispose désormais d'une usine de production de l'oxygène médical, une centrale capable de couvrir tous les besoins en oxygène médical de plusieurs structures médicales de la sous-région. C'est une œuvre du centre hospitalier Biopharm avec le financement de la coopération suisse. L'inauguration a eu lieu hier jeudi à Moudaka dans les territoires de Kabambari. Le point avec Emmanuel et la Mesua Kabedi.
La centrale de production d'oxygène médical est une œuvre du centre hospitalier Biopharm de Bukavu. Sa capacité de production est de 240 litres d'oxygène par jour. Docteur Christian Bafouka, médecin directeur de Biopharm.
La centrale qu'inaugurait ce jour est une première du genre dans notre province de par sa capacité, avec une production moyenne de plus de 80 bouteilles par jour, soit 240 litres d'oxygène par jour. Donc il n'y a aucune crainte de rupture ici. La province du Sud-Kivu peut se réjouir de disposer d'une source intarissable d'oxygène pur, à même de résorber tous ses besoins en oxygène tels qu'ils soient. La mise en service de cette centrale ce jour permettra d'alimenter de manière continue les hôpitaux généraux et les centres de santé de la province du Sud-Kivu en quantité d'oxygène équivalente.
Pour la coopération suisse qui a financé cette usine, ceci est une réponse aux multiples besoins des hôpitaux du Sud-Kivu, eux qui avaient du mal à traiter des malades en besoin d'oxygène lors de la pandémie de COVID-19. Le vice-gouverneur du Sud-Kivu, qui l'a inauguré, promet l'accompagnement de la province. Emmanuel Lamijoakabedi, Bukavu Radio Okapi.
Et puis au nord Kivu en plus bref, la troisième campagne de vaccination anti-COVID-19 a été lancée hier jeudi dans la zone de santé de Mutuanga. Nous sommes là dans le territoire de Beni. Selon l'infirmier titulaire du centre de santé de référence de Mutuanga, Justin Katembo Malaki, cette vaccination s'est faite en équipe mobile dans le groupement de Bassongora. Plus ou moins 20 personnes ont été vaccinées pour la seule journée d'hier jeudi sur l'axe Kassindi Lubiria, indique-t-il. Pour cette deuxième journée, il lance un appel à tous ceux qui ne sont pas encore vaccinés de venir recevoir leur dose de vaccin afin de se protéger normalement contre la chaîne de contamination. Dans la province de la Tchopo, les lois environnementales sont systématiquement violées par les personnes humaines et les auteurs de ces incriminations restent impunis notamment par la justice civile. Ces comportements engendrent des conséquences sur la planète et les humains, notamment la perte de la biodiversité par extinction des espèces animales et végétales. C'est ce qui ressort des conférences organisées hier dans la grande salle du collège Maélé par l'ONG Trumpet Boss RDC. Que faire pour lutter contre les crimes environnementaux? Un reportage de Jacques Moukonkolé.
Les menaces qui pèsent sur l'environnement dans la Tchopo sont indéniables. Selon le professeur Alphonse Mayindo, directeur de Tropen Boss RDC, les arbres sont coupés anarchiquement, les animaux détruits, l'air et l'eau pollués en violation des droits de l'environnement, et cela en toute impunité.
Il faut faire une campagne de sensibilisation de tous les professionnels de la justice pour que ces professionnels prennent conscience qu'il y a un sérieux problème en ce qui concerne ces crimes environnementaux parce qu'il en va de notre vie et c'est même plus grave que des crimes contre l'homme tout simplement parce que ça concerne l'ensemble des êtres vivants.
Cette impunité est réelle à considérer l'état des lieux de la répression des crimes environnementaux présenté par le président de la cour d'appel de Kisangani. Il est nul selon Omar Mutondo. La faute incombe aux ONG de défense des droits de l'homme, déclare pour sa part le président du tribunal de commerce de Kisangani, Joseph Makunzu.
Aux ONG des droits de l'homme de se passer, s'ils le vont, de la procédure pénale au niveau du ministère public, au niveau du parquet, et de venir directement saisir le juge par citation directe. Mais ils ne le font pas. S'ils le faisaient, je crois que beaucoup d'affaires arriveraient chez les juges. Il y aurait donc des jugements et des sanctions. Et nous aurons aujourd'hui un arsenal jurisprudentiel à cette matière qu'on n'a pas.
Les ONG présentes se disent interpellées et promettent de changer de fusil d'épaule. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Et puis la régie des eaux Lubumbashi déplore la spoliation de ces sites où sont installées les stations de captage et de pompage d'eau. C'est notamment au site de Kimilolo, de Kassapa et Luano. Malgré cela, elle fait du mieux qu'elle peut pour desservir la ville en eau potable. D'après son directeur provincial, par moment, il y a interruption dans la fourniture à cause notamment du manque d'électricité et des pannes qui surviennent sur leurs machines. On écoute Ignace Ilunga Kabulo, directeur provincial de la régie des eaux dans le Haut Katanga, au micro de Jean Ngandou.
Nous avons plusieurs sites, mais le plus important, nous en avons trois. Kimilolo, nous avons sur ce site trois grandes usines que nous appelons trois grands modules. Le module 1, qui est le plus ancien, qui fonctionne à 50% avec des équipements tout à fait neufs, et alors que 50%, ce sont des équipements qu'il faut remplacer. Nous avons Kimilolo 2, qui a été rénové tout récemment. Nous avons Kimilolo 3, qui fonctionne correctement. Mais ces sites dépendent aussi des unités auxiliaires, comme nos forages qui sont en Kafubo, qui alimentent la station de Kimilolo 3, qui eux, connaissent des problèmes, justement, qui justifient la mauvaise desserte dans certains quartiers, comme Plateau, Caravia. Les gens ont du mal ces jours-ci parce que nos deux pompes de Kafubo sont à l'arrêt. Vous savez que la régie des eaux qui mille ses propres pannes avec les pannes de la SNEL, ça veut dire que lorsque nous n'avons pas de courant, nous ne fonctionnons pas. Lorsque nous avons nos propres pannes, nous ne fonctionnons pas. Nous couvrons à peu près 60% de la population. C'est parce qu'il y a des quartiers où nous ne sommes pas présents. Et quand vous laissez 40% à côté, vous avez quand même un monde pas maîtrisable de gens qui devraient circuler avec des bidons jaunes vers des zones où il y a des loups.
Actualité internationale.
En Afrique du Sud, un syndicat de fonctionnaires a mené une grève jeudi 10 novembre pour réclamer de meilleures hausses de salaire. Après des négociations, le gouvernement sud-africain a décidé d'imposer une augmentation de 3%, la première depuis 2018. Mais elle est très loin d'être suffisante selon les grévistes. Ils se sont lancés dans un bras de fer avec le ministère des Finances. Et puis, le navire humanitaire Ocean Viking accoste ce vendredi 11 novembre à Toulon avec 230 migrants à bord. À titre exceptionnel, a annoncé jeudi le gouvernement français au terme d'un bras de fer diplomatique avec l'Italie. J'ai bien précisé à la demande du président de la République que c'est à titre exceptionnel que nous accueillons ce bateau au vu des 15 jours d'attente en mer que les autorités italiennes ont fait subir aux passagers, a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérald Darmani, désignant le port militaire de Toulon pour les débarquements.
L'invité.
Le coordonnateur du pool Grand Cassac de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en CR est notre invité dans cette édition du journal. Cette structure gouvernementale a été mise en place par l'État congolais pour l'électrification du Congo profond et permettre l'accès facile de l'énergie à tous. Des sites ont déjà été identifiés et plans locaux d'électrification finalisés dans l'espace Kassai, assure Damien Toambilangani. Avant la fin de l'année en cours, la population pourra avoir les premiers kilowattheures de l'énergie produite par Anser à travers les sociétés recrutées dans le projet. Damien Toambilangani est notre invité dans cette édition du journal. Il en parle avec François Kadima. Suivez.
Monsieur Damien Toambilangani, bonjour.
Bonjour.
L'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, en Serre et au Grand Kassai, depuis maintenant, je veux dire peut-être plus d'une année, je pense. Qu'est-ce qui a déjà été réalisé jusqu'à ce jour?
Ce qui a été fait jusque-là, c'est quoi? C'est que on a commencé par identifier les sites du Grand Kassai. Sur le Grand Kassai, nous avons 5 provinces, 26 territoires. On a commencé par faire un travail d'identification des sites et puis un travail d'enquête socio-économique sur l'ensemble de ces 26 provinces, de ces 26 territoires pour pouvoir proposer ce que nous appelons des plans locaux d'électrification que nous avons aujourd'hui élaborés. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous dire qu'est-ce qui est faisable sur chaque territoire. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au mois de juillet, nous avons lancé les appels d'offres parce que maintenant que nous avons identifié les sites, maintenant que nous avons fait des études, nous avons lancé des appels d'offres parce que nous avons pu obtenir de l'État congolais une dotation de quelques millions de dollars pour implémenter un certain nombre de projets de microcentrales hydroélectriques et solaires. Donc, nous avons lancé des appels d'offres au mois de juillet. Beaucoup de sociétés ont répondu, des sociétés locales et internationales. Et aujourd'hui, nous avons des commissions d'analyse technique et des commissions des marchés qui sont en train d'analyser ces dossiers. Et d'ailleurs, nous avons déjà commencé à recevoir progressivement des sites, des marchés pour lesquels les sociétés ont été désignées.
Dans la première partie, vous nous avez dit que vous savez maintenant ce qui est faisable. Si nous descendons aujourd'hui à Katokandesha, qu'est-ce qu'on va constater?
Nous avons cette propension déjà à donner de l'électricité à tout le monde, à tous les ménages. Mais maintenant, dans la stratégie actuelle, nous procédons différemment en privilégiant, certes, les usages productifs aux usages domestiques, mais avec le temps, tout devrait s'équilibrer. Maintenant, si vous allez à Katokandemba, Andesha, partout là-bas, nous avons déjà fait, par exemple, tout ce qui est étude de la demande. Nous avons fait des plans d'électrification. Aujourd'hui, parmi les appels que nous avons lancés, Katoka, par exemple, est concerné pour une centrale solaire de plus ou moins 400 kW qui va résoudre un certain nombre de problèmes. Nous avons Dembaké concerné. Il y a un certain nombre de territoires qui sont concernés dans l'appel d'offres que nous avons lancé. Mais il faut dire que lorsqu'on parle des plans locaux d'électrification, c'est la planification.
Oui, vous parlez de centrales solaires. Comment ça va se passer? Vous donnez du courant aux ménages, ces ménages payent. Donnez-nous un délai précis où la communauté peut se dire, alors aujourd'hui, on sert, nous donne du courant.
Oui, mais vous savez, lorsqu'on a lancé les appels d'offres, on avait parlé du mois de décembre. Je dois ouvrir une parenthèse pour dire qu'on a connu un retard avec les procédures de la direction des passations des marchés. Ça, tout le monde sait, nous sommes un établissement public, c'est un marché public, on a lancé les appels, nous avons essayé de négocier au maximum pour rétrécir le délai, mais nous sommes tombés quand même dans la lourdeur administrative au niveau de la direction générale des passations des marchés, et c'est assez élastique. Mais maintenant, avec ce qui est en train d'arriver, il est vraiment très possible qu'avant la fin du mois de décembre, que nous donnions les premiers kilowattheures sur certains sites. Pas tous, parce qu'on a connu du retard avec la passation des marchés. Puisque maintenant, nous pourrions, parmi les sociétés qui ont soumissionné, il y en a qui ont déjà des équipements sur le terrain, donc ça peut permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc, avant la fin de cette année, il y aura quelques kilowattheures qui seront desservis, mais déjà, avant le premier trimestre de l'année prochaine, c'est là que toute chose sera suffisamment implémentée.
Le premier kilowattheure, quelles communes ou municipalités qui vont bénéficier de ce premier signe de courant?
Nous travaillons sur 26 territoires et les appels que nous avons lancés, c'est pour les 26 territoires. Et lorsque les sociétés sont désignées, c'est pas une seule société qui va faire, c'est plusieurs sociétés qui commencent au même moment. Si je prends par exemple le cas de Kananga, enfin de la province du Kasaï central, j'ai quelques sites qui ont été par exemple identifiés à Kananga dans les périphéries. Nous sommes à Kamaï, on est à Katoka, nous sommes en train aussi d'envisager l'aéroport et les environs. Luisa, il y a Chimbulu et il y a Demba, ainsi de suite.
Alors le coût, un ménage de bourse, combien d'argent pour avoir accès à cette énergie?
C'est fonction aussi des charges qui sont induites par l'activité de la centrale. Maintenant, notre rôle à nous en CER, parce que nous avons au sein d'Enser le fonds Mwinda. Son but, c'est de pouvoir aider les ménages difficiles, mais aider surtout les opérateurs.
Monsieur Damien Tambilangani, nous vous disons merci.
Merci à vous.
Voilà, complètement terminée cette édition du journal, mise en onde par Jean-Claude Siala. Merci à toute l'équipe rédactionnelle à travers toute la République, sous la coordination de Pierrot et la Mégie et la supervision de Noéla Luzitu Kabambi. Merci de nous avoir suivis.